Chapitre 6. Il pouvait être 1 ou 2 heures du matin. La nuit était calme et claire, la ville silencieuse. On entendait seulement de loin en loin les appels du guet. Le vieil homme s'était tout à l'heure endormi rapidement, aidé par une bonne décoction, mais il venait déjà de se réveiller avec une sensation de gêne. C'était toujours la même chose, d'abord ce besoin de respirer profondément, puis cet embarras qui l'envahissait insidieusement, semblant sourdre en lui de tous les points du corps. Il fallait qu'il se lève, même s'il savait d'expérience que ce serait inutile, s'il savait qu'il aurait bientôt le même incoercible besoin de se recoucher, de se lever encore, tout cela sans aucun soulagement. La crise était puissante, il le sentait, comme on n'ignore pas en regardant au loin venir la vague qu'elle ira plus haut que les autres sur le sable. Elle monta en quelques minutes, effectivement plus forte que jamais. Comme la vague, elle l'entêtait en lui, le prenait, le submergeait. Il inspirait l'air à grand-peine, en courte lampée, à peine suffisante pour l'empêcher de s'asphyxier tout à fait. Mais quand enfin il se sentait la poitrine pleine, c'était un autre tourment. Il avait plus de mal encore à en chasser au dehors le souffle vicié. Il se sentait gonflé comme une outre ballottée d'un mur à l'autre. Au passage, dans son mouvement désordonné, il fit tomber une chaîne et trébucha, à genoux devant le lit. La maisonnée s'éveilla, on allait accourir. Il n'éprouva à cette idée aucun soulagement. Au contraire, ils allaient s'agiter autour de lui, voudraient l'aider à coups de tape dans le dos et de tisane, ils feraient pis que mieux. Et lui, pour ne pas les peiner, n'oserait évidemment pas les en empêcher, leur dire de le laisser souffrir en paix. « Ah, mon pauvre Jean, mon pauvre Jean !» Antoinette entra la première, comme toujours. Jeanne la suivait. Il leva les yeux, et plutôt que sa sœur, il vit surtout Gaspard, le mage du tableau, dont la mine niaise semblait prendre vie au tremblement de la bougie. Elles voulurent le relever, mais n'y parvinrent pas. Il était lourd et restait appuyé au bois du lit, ne leur laissant aucune prise. « Simon, viens vite, viens m'aider !» Simon, c'était son mari, bourgeois débonnaire qui ronflait ordinairement à poing fermé, malgré les émois nocturnes qui agitaient la maison. Tiré de son sommeil, il accourut sans broncher, et ils le remirent donc au lit. Il ne voulait plus bouger, recroquevillé, le corps en sueur. L'angoisse l'avait saisi, il avait perdu le contrôle de son corps, cette assurance qui l'avait aidé à surmonter tant de crises. Les époux Léonard ne savaient que faire. Irait-il chercher un médecin, un curé? Ils en parlaient entre eux sans oser lui poser la question pour ne pas l'alarmer. Dans sa prostration, il les entendait. Il fit un geste qui pouvait passer pour un refus. Ils restèrent donc là, les bras ballants, se contentant de lui mettre sur le dos une couverture qui tremblait au rythme des sifflements de sa respiration. À quoi pouvait-il penser ainsi? Il n'était jamais allé aussi loin. On dit que les gens près de passer revoient toute leur vie en un instant, perdant toute idée du temps aveuglé qu'ils sont déjà par les célestes lueurs. Il ne ressentait rien de tout cela et s'en étonnait. Soit ce sont la fadaise, se disait-il, soit son heure n'était point encore tout à fait sonnée. Il n'avait guère le loisir de philosopher et se contentait de repasser convulsivement à sa tête des bribes de prières interrompues par la souffrance et qu'il reprenait au hasard. Le temps qu'il passa ainsi lui parut une éternité, puis le souffle revint assez vite, comme d'une fenêtre qu'on ouvre et qui dissipe en un instant l'air étouffant du déduit. Mais ce souffle qui lui entrait à flot dans la poitrine devenait une douleur nouvelle. Les poumons privés de leur fonction s'étaient comme desséchés et il protestait à cette respiration inespérée. Il protestait comme des poumons peuvent protester par des quintes terribles. L'atout donc à son tour le prenait, incompressible. Il connaissait aussi cette étape de son mal, prix à payer pour une éphémère rémission. Il s'en accommodait, debout cette fois, arpentant la chambrette. Il avait pris un linge sur son lit et s'y plongeait la figure à chaque quinte, s'efforçant d'en réduire les éclats. Son beau-frère était parti se recoucher, mais Antoinette veillait toujours et le manège ne l'échappait pas. « Montre-moi ça, Jeannot, intervint-elle, tentant de saisir le chiffon. Ce n'est pas du sang, au moins. Mais non, ne t'en fais pas. » Et il lui montrait le linge, sans toutefois le lui laisser. Nulle trace de sang, en effet. Il ne lui revenait jamais que de petits crachats. Ce qu'elle ne pouvait voir, par contre, c'était les petits grains grisâtres qu'il expectorait en quantité depuis quelque temps. Il n'en parlait à personne, les écrasant dans son mouchoir, mais s'en inquiétait davantage qu'il ne lui fait de sang. Quel animal inconnu lui dévorait donc l'intérieur, pondant et pondant ainsi ses œufs minuscules qu'il ne pouvait tous rejeter. La toux se calma peu à peu. Épuisé, il s'endormit jusqu'au matin. Il se passa beaucoup de choses au cours de l'an de grâce 1593, celui de mon 19e anniversaire. Chaque année apporte ainsi sa moisson de bonheurs et malheurs ordinaires. Ah, que le ciel est généreux quand il s'agit de dispenser aux mortels ces événements grands et petits dont on ne sait finalement pas trop s'il faut en rire ou en pleurer. La chose la plus inouïe qui se produisit fut aussi celle qui me concerna le moins, cette hérétique d'Henri, sur lequel le royaume entier appelait en ses prières les pires malédictions, ce roi qui prétendait porter une plus prestigieuse couronne que celle de Navarre, se convertit un beau jour de juillet au catholicisme. On s'en étonna fort en Espagne, mais on ne s'en réjouit guère. Comment? Le trésor avait dépensé, et dépensait toujours des fortunes pour soutenir le parti catholique, placer au trône de France quelques dignes souverains, notre infante Isabelle par exemple, pour bouter hors du royaume voisin cette personnification de l'hérésie, et voilà que par un tour de passe-passe, par une pirouette de conscience, ce madré se faisait bon chrétien. Que des hommes du commun se convertissent ainsi, très bien, on ne leur demande rien d'autre, mais là c'était par Dieu trop facile et sentait fort la comédie. Les plus naïfs imaginèrent qu'on pourrait ainsi enfin vivre en paix, en quoi ils se trompèrent évidemment, puisque la guerre n'allait attendre que 2 ans pour se relever. Des coups de main et médiocres massacres faisaient de mémoire d'homme l'ordinaire des relations entre les deux nations. Elles allaient même croire et embellir en belles et franches batailles. Plus près de nous, il se fit quelques mouvements à la chapelle, départ de vieux compagnons, arrivés de nouveau. Quant à moi, au terme déjà de 8 années de travail, je quittais, selon l'expression consacrée, la maison du maître de musique pour être enfin nommé à l'état de chantre. Et comme je compterais, j'abandonnais par la même occasion, et sans gloire aucune, l'état de puceau. Philippe, héritier de la couronne, nous suivait en âge de peu d'années. Tout malingre et scrofuleux qu'il fût, il montrait en grandissant de réelles dispositions pour la musique. Sans doute, s'il n'eût été de si haute lignée, serait-il devenu musicien. Peut-être cela eût-il mieux valu pour lui comme pour les autres. Au temps dont je parle, il était déjà habile à la viole et surtout à la vihuela, qu'il avait résolu d'enseigner lui-même à ses écuyers. C'est là un instrument qu'on ne trouve qu'en Espagne, une sorte de guitare à fond plat, dont on joue, comme d'ailleurs du luth. Le prince était assez fier du sien, de fort belle facture, d'autant que nul n'en possédait à la chapelle flamande, faute de pouvoir en faire un usage liturgique. Il promenait aussi avec lui le très bel et gros livre des Obras de Musica para Tecla, Arpa e Viola, recueil de cabezones dont il se plaisait à jouer variations et exercices en toutes occasions. Sachez, messieurs, qu'Antonio de Cabezón était à Sa Majesté mon père. Il était aveugle de naissance, ce qui ne l'empêcha pas de voir bien des pays. Nous rions poliment à ce trait, qu'il nous servit 20 fois, car il était davantage pourvu de talent musical que d'esprit ou de mémoire. Oui, messieurs les chanteurs, il a vu tous les pays, même les vôtres, ceux que l'on nomme bas parce qu'ils sont en haut sur les cartes. Ah, c'est le plus habile des musiciens, et vous-même n'en avez point chez vous de meilleurs. Ce dernier propos n'était point si sot que le précédent, car le sieur Antonio de Castrillo de Matayudios Cabezón avait effectivement autant de génie que de particules, et j'avoue que je puisais plus d'une fois dans les recueils de ses œuvres des idées pour les miennes. Quand le prince nous gratifiait d'une aubade, il n'y avait nulle flagonnerie dans nos louanges. Il devait se rendre compte, et nous sachant instruits de la chose musicale, il attachait plus de prix à nos compliments qu'à ceux des courtisans. Le prince chantait aussi avec une certaine aisance, mais il avait surtout du goût pour la danse. Plus tard, devenu roi à son tour, il allait même passer pour le plus gracieux danseur de son temps. Une telle réputation n'est pas peu de chose si l'on songe au peu de grâce que pouvait avoir sa personne. Les chantres de la chapelle flamande étaient priés régulièrement de lui donner le son de leur art. C'était un motif de fierté pour nous et bien sûr une occasion de contentement pour notre rival, la Capella Española, qui jugeait offensant de se voir préférer ces sortes d'étrangers que nous étions, sans qu'à son estime rien ne le justifiât musicalement. Elle n'avait pas tort sans doute, mais les hommes sont ainsi faits, et les rois autant que les autres, qu'ils préfèrent aux choses et aux gens qu'ils ont chez eux, les mêmes qu'ils ont fait venir du diable à grands frais. Nicolas Hanon eut assez souvent l'honneur d'officier comme précepteur princier. On se souviendra que cet autre Nicolas venait comme moi de Saint-Aubin et qu'il avait fait avec nous le grand voyage de mer et de terre que j'ai compté. C'est lui qui chantait avec turlure dans la carriole qui nous menait à Bruxelles avant le départ. Si je n'ai guère parlé de lui jusqu'ici, c'est qu'il était à l'âge d'homme quand nous n'étions qu'enfants et nous ne fréquentions guère qu'aux offices chantés. Resté à la fois laïque et célibataire, c'était un homme discret sur qui l'on pouvait compter. Il avait une très belle voix de basse-contre qu'il entretenait comme d'autres prêtent soin de leur instrument. Il n'aurait jamais osé chanter sans s'être échauffé par moult exercices et on ne le voyait sortir jamais sans s'être couvert la gorge, même au plus fort de l'été, et ne fût-ce que pour traverser les corridors menant à la basilique. Il n'était d'ailleurs que chanteur, ne se mêlant point de composition. Cette réputation de sérieux s'était affirmée au fil des ans dans l'esprit des personnages aussi éminents que le grand aumônier, et de cela vient sans doute qu'il eut souvent à faire chanter le prince, qui donc eut cru que cela allait lui causer de bien graves ennuis. Il y a dans l'âme de l'Espagnol une bonne dose de duplicité. C'est elle sans doute qui le pousse à marmonner des patenôtres quand il assassine son prochain pour lui voler la bourse. C'est elle aussi qui lui fait prendre pour honneur et noblesse l'oisiveté et sa fille aînée, la misère. On pourrait croire que la musique exempte de tels travers, point du tout. On aime la danse en Espagne, comme sans doute dans tous les pays du monde. Il se tient abondance de bals à la cour, du moins quand on n'y est pas en carême, et qu'on ne déplore nul deuil, peste ou défaite des armées, ce qui réduit singulièrement, il est vrai, la saison des plaisirs. Je tiens personnellement la danse pour quelques formes humaines de cette parade que font les coqs de broyère pour décider leurs femelles, et il tient à cela même quelque ambiguïté, qui en fait sans doute le principal attrait et dont s'offusquent les esprits chagrins. Quand bien même on n'en figure pas le mouvement, la danse est l'âme de la musique. Je n'ai de ma vie écrit nulle mesure où l'on en puisse sentir quelques cadences. C'est aussi plaisir de voir notre maître Philippe quand il nous met nos offices. Ne se laisse-t-il pas aller à un balancement de toute sa personne? N'est-ce pas la danse qui nous fait donner vie à ce fatras de brèves, de fus et de minimes, et somme toute bien chanté? On danse donc par de ça, mais au nombre de toutes les danses qu'on y peut danser, il en est une maudite de façon capitale, inexpliquée et définitive, c'est la sarabande. Que personne n'ait l'audace de chanter ou réciter dans les rues, maisons et autres lieux la chanson qu'on appelle sarabanda. Voilà une sorte de 11e commandement de l'Église de Madrid qui fut promulgué le 3 août 1583 et tient depuis pour aussi capital que le dogme de la Trinité. On tient donc la sarabande pour une incitation au péché, lascive dans les paroles et les gestes qu'elle fait dire et faire aux chrétiens. Cette condamnation n'a bien sûr aucun effet, sinon d'ajouter le piment de l'interdit à la vogue immense dont jouit la danse. D'ailleurs, pourquoi s'en prendre à elle et non aux autres qui, comme j'ai dit, sont de même nature? Quand pour clôturer une fête ou un bal, on mène la sardane en grand cercle, quand les mains se touchent, se serrent, s'égarent un peu, n'y a-t-il pas autant matière à réprobation? Mais non, on n'en veut qu'à la sarabande, sans doute parce qu'elle est d'origine douteuse, bien incertaine, mais à coup sûr étrangère à la Castille et à l'Aragon. Certains la font venir d'Andalousie, pays de ces morts maudits qu'une conquête ancienne d'un siècle n'a pas encore élevé à l'état d'espagnol. D'autres grands voyageurs ont prétendu l'avoir entendue au fait des tribus du Guatemala ou du Mexique. Qu'elle vint de chez les Maures ou de chez les Indiens, c'est en tout cas sans conteste une sarabande qu'on entendit chanter à Nicolas Hanon et avec lui à son royal élève. Il se trouva une bonne âme d'aumônier pour l'aller rapporter en haut lieu et l'affaire fit grand scandale dans le monde étroit des musiciens de la cour. Le chantre eut pu prétendre que c'était le prince Philippe et non lui qui avait voulu apprendre ses rythmes maudits, ce qui n'était sans doute que la vérité vraie. Mais qu'est-ce que cela aurait changé? Il s'était mis en un mauvais cas, on ne pouvait donc que lui donner tort. Il s'est tu, ce qu'il avait sans doute de mieux à faire, car la réputation du prince avait plus à pâtir que celle d'un chantre obscur. Le grand aumônier le fit enfermer sur le champ. Il se devait évidemment d'être d'autant plus sévère qu'il était lui-même responsable devant le roi du choix d'un si indigne pédagogue. Nous étions fort inquiets du sort de notre aîné, d'autant que nous savions ce qu'il pouvait en coûter de braver les interdits de l'Église. Nous l'imaginions déjà livré à l'Inquisition, voire promis au bûcher. Comme toujours, dès qu'une affaire nous semblait grave, nous courûmes demander conseil à notre ami le franciscain Fray Hieronimo. Il était bien sûr au courant de l'incident. Il partit d'un grand rire, plus apaisant que toutes les assurances du monde. « Ah, la sarabande, danse maudite !» Savez-vous, malheureux pêcheur, ce que le révérend père Juan Mariana en dit de cette sarabande? Elle est lascive par les paroles, si vilaine en ses contorsions qu'elle suffit à enflammer les chrétiens les plus honnêtes. Il se moqua de nos inquiétudes. Mais mes amis, si l'on devait châtier, comme vous le craignez, tous ceux qui chantent ou dansent la sarabanda, c'est l'Espagne tout entière qui monterait au bûcher. Et entre nous, il ne resterait plus pour l'allumer que quelques jésuites ou l'un ou l'autre dominicain. Non, croyez-moi, un procès serait trop gênant. Imaginez, l'héritier du trône mêlé à une telle infamie. On mettra votre collègue au silence, au besoin on le fera passer pour fou, puis on l'oubliera. Le mieux qu'il ait à faire est de se tenir quoi, car les moyens ne manquent pas pour le faire taire. Mais cela, il semble l'avoir compris. Fray Jeronimon ne s'était pas trompé, Nicolas Hanon fut éloigné de la cour, avec défense à quiconque de le visiter ou de rapporter ses propos, qui ne pouvaient être que mensonges et vilenies. Ce que le franciscain n'avait pas prévu, c'est que le chantre namurois recevrait son congé pour la date du 23 mars. Il était ainsi licencié et prié de rentrer par-delà après 8 ans de bon service à la cour. Eh bien voilà, conclut Mathieu Romarin, nous savons ce qu'il nous reste à faire pour rentrer au pays. Il suffit de danser la sarabande. Hanon quitta l'Espagne début avril avec Philippe Rogier. Le maître de chapelle repartait en effet de nouveau aux Pays-Bas, moins de 2 ans après son précédent voyage et toujours afin de ramener de nouveaux chanteurs. Un édit royal daté du 26 février ordonnait le recrutement de 12 enfants de 7 jusqu'à 7 ans, étant entendu que si les commissionnaires rencontreraient quelque enfant de voix excellente, ils pourraient aussi le retenir, quand bien même il excéderait cet âge de 9 ans d'une année ou davantage. L'un de ces commissionnaires n'était autre que Michel Duboc, celui-là même qui nous avait auditionné jadis à Saint-Aubin. Philippe irait donc lui-même chercher ses enfants. Quelle chance il allait de pouvoir ainsi voyager à sa guise, jouissant à la fois du prestige de sa charge et des douceurs de son natal pays. Nous l'envions, mais notre nostalgie n'avait plus rien de commun avec ce qu'elle était au premier temps de notre exil. Elle était devenue une sorte d'excuse à nos moments de vague à l'âme, guère plus. J'étais sans nouvelles de ma famille depuis plusieurs années, Philippe n'ayant pu ou n'ayant voulu m'en donner de son dernier passage à Namur, et j'en arrivais à ne plus les souhaiter. Je revoyais certes la scène de mes adieux au grand départ de la diligence, mais j'avais peine à recréer en pensée une image claire du visage de mes parents. Je m'y essayais parfois, mais le portrait fuyait, restait incertain, bien moins précis curieusement que le souvenir de la bonne tête de mon premier maître de musique, ce brave Fonascu, Dieu ait son âme. Néanmoins, lorsque le maître de chapelle vint nous saluer au moment du départ, je lui recommandai de s'enquérir des miens s'il passait à Namur et lui remis une lettre à leur attention. Je vis bien qu'il était contrarié et nous pensions l'un à l'autre à la querelle qui avait marqué son retour 2 ans plus tôt. Il prit cependant, sans rien dire, le pli que je lui donnais. « Je ne serai pas long, nous dit-il, s'il ne survient quelque empêchement, comptez sur mon retour avant l'hiver. » N'oubliez pas que de grandes choses nous attendent, cette année encore, que nous avons à préparer ensemble. Dans les mois de cet été où il fut absent de la chapelle, je le découvris sous un jour encore inconnu par un hasard qui allait avoir sur mon destin quelque incidence. Nous étions pour lors à l'Escorial, séjour charmant cette saison, et nous devions chanter pour la grand-messe de la Pentecôte un cantate domino de Thomas Luis Victoria, ce musicien espagnol que je tiens pour le meilleur de notre temps. La chapelle était au complet et nous n'avions pas sous la main assez de musique pour en pourvoir tout le chœur. On aurait pu faire gratter les copistes, mais Adrien Capi, vice-maître qui menait la chapelle en l'absence de Philippe, eut une meilleure idée. « Je suis sûr que nous avons quelque part ces partitions en suffisance. On a déjà chanté ce psaume en plus grande compagnie qu'aujourd'hui. Jean, va donc voir chez Rogier si elle ne s'y trouve pas. » Philippe avait au palais une sorte d'antichambre où il laissait ses affaires où il composait assez souvent. L'endroit était austère, éclairé du haut d'un simple œil de bœuf percé dans le mur nu et d'où l'on ne voyait qu'un morceau de ciel. La porte n'en était jamais close, chacun pouvait entrer là comme chez lui et je suis sûr qu'il aurait trouvé tout naturel qu'on allât ainsi au besoin fureter dans ses affaires. J'y entrai donc. Les musiques étaient rangées dans des casiers de bois fort commodes. Je cherchais partout, mais de psaume 95, point. J'avisai alors dans un coin un gros coffre où je savais trouver un tas de manuscrits et de fragments de toutes sortes. Peut-être le cantate domino s'y était-il caché en attendant des jours meilleurs. Fouillant dans ce bric-à-brac, je tombai effectivement sur un cantate domino manuscrit. Il suffisait d'en lire quelques notes pour se rendre compte que ce n'était pas la musique de Victoria, mais bien qu'il fût manifestement écrit de sa main, je ne le reconnaissais pas non plus pour l'œuvre de notre maître, que j'étais sûr pourtant de connaître tout entière. Quel était ce mystère? Je restai là un moment, à lire le psaume, assis par terre au milieu des papiers épars. J'étais devenu assez musicien pour entendre l'harmonie sans le truchement des oreilles, et cette pièce était assez bien faite dans la façon de Rogier. Soudain, je sursautai. Il y avait trop de notes dans une mesure. Était-ce possible? Philippe se trompait ainsi, comme un enfant qui griffonne ses premières portées et qu'au fond fuse et minime? Mais j'avais beau recompter, au Populis Mirabilia Eius, il y avait bien deux temps de trop à l'une des voix. Et plus loin, au fil des lignes des pages, les choses ne s'arrangeaient pas. Tantôt c'était le supérius, tantôt la taille ou la basse qui se trouvaient accablés de notes surnuméraires. Non, décidément, il y avait là quelque énigme. À moins que Rogier n'eût essayé là quelque nouvelle manière dont l'ingéniosité m'échappait, ou abusé du vin de messe, ce qui n'était pas son ordinaire. Je revins donc sans le psaume de Victoria, mais avec cet autre cantate domino caché sous ma tunique. J'en parlais bien sûr à Nicolas, et le soir même, comme des conspirateurs, nous examinions de plus près la musique. Nous commençâmes par repérer ces notes indésirables. Ce n'était pas facile, car elles étaient toujours de valeurs différentes et qui plus est, se baladaient un peu dans toutes les voies. Après une heure de travail, nous en avions trouvé 20, et bien plus tard 5 encore. Cela ne nous avançait guère. Mises bout à bout, elles n'avaient aucun sens, aucun rapport entre elles. « Tiens, regarde !» s'écria soudain Nicolas. « On dirait que sous chacune, une lettre du texte est un peu différente de ses voisines. »« Tu crois ?» Tiens, oui, si le P paraît plus grand et le S penche un peu. La clé de l'énigme était-elle donc dans le texte du psaume lui-même et les lettres ainsi signalées avaient-elles un sens? Fébrilement, nous le reportâmes sur une autre feuille. Peres mac peric mulier sicaria. Peres, il est question d'Antonio Peres. Nous savions évidemment qui était Peres, on n'avait parlé que de lui depuis 2 ou 3 ans. Ancien secrétaire du roi, accusé de meurtre et torturé, il s'était miraculeusement échappé de sa prison. L'Inquisition l'avait poursuivi en Aragon, ce qui avait failli amener la guerre, mais il avait échappé à la vengeance du roi, réfugié sans doute en France. Mais après Pérez, Mac Péric, ça ne veut rien dire. Il s'agit peut-être de deux mots. Péric, ce peut être Periculum. Et Mac, Magister ou Magnum. Magnum periculum, grand danger. Moulière, moulière, c'est femme, mais sicaria. Ça, je sais, c'est assassin. Moulière, sicaria, femme, assassin. Pérez, grand danger, femme, assassin. Cela sonnait comme une mise en garde à Pérez, ou contre Pérez. Par les temps qui couraient, un papier portant ce nom conduisait à coup sûr son porteur au pire désagrément. Nous n'eûmes guère à nous concerter, le psaume fut remis dans l'heure au coffre d'où il n'aurait pas dû sortir. Et en un instant, le message transcrit fut brûlé. Je ne pourrais cependant jamais ôter ces quelques mots de ma mémoire et la peur me prit d'avoir touché à quelque chose qui n'était pas pour moi. En quoi notre bon maître pouvait-il être lié à ce Pérès ? Philippe revint comme il l'avait annoncé à l'automne de la même année avec une moisson de nouveaux chanteurs. Nous les accueillîmes avec émotion, pensant nous revoir avec 8 ans de moins, tout comme nos aînés nous avaient reçus alors, eux que nous tenions déjà pour de vieilles badernes. Ainsi va la vie. Je manquis évidemment sans retard du sort du courrier à ma famille, dont je l'avais chargé, pour comprendre tout de suite que je ne serais pas plus avancé que la fois précédente. Mon sang ne fit qu'un tour, plus sans doute en raison de l'air excédé qu'il prit pour m'envoyer promener que par le seul dépit de rester encore dans l'ignorance. « Non, Philippe, j'en ai assez, tu ne peux pas nous traiter comme ça. Je suis resté ici parce que je te faisais confiance, mais j'ai eu tort, je me suis trompé. Ah oui, je me suis bien trompé. La vérité, c'est que tu te moques de nous. Tout ce que tu veux, ce sont des chanteurs à ta chapelle pour exécuter tes œuvres et être connus comme le meilleur. Ce que nous pouvons penser ou ressentir, tu t'en fiches, mais ça ne peut pas dire, dis-toi bien, que nous ne sommes pas des chiens. » Roger semblait surpris de cette explosion à laquelle mon tempérament plutôt placide ne l'avait pas habitué et qui la rendait peut-être d'autant plus violente. Il voulut encore une fois me convaincre que ma vie était ici, que trop penser au passé me rendrait malheureux et me détournerait de ma carrière, mais il ne faisait qu'aviver ma colère. « Toi, évidemment, tu t'en moques, tu n'as plus de famille, et encore, ça ne t'empêche pas de retourner au pays à ta guise. » Et dans ma rage, il me vint aux lèvres la phrase que je ne devais en aucun cas prononcer. Enfin, quand je dis au pays, qui peut en être sûr? Après tout, tu étais peut-être chez ton ami Pérez. » Il pâlit d'un coup. Je me tus. Il me saisit alors à la nuque et me poussa avec rudesse jusqu'à son cabinet. « Tu as dit Pérez. Que sais-tu? Parle ou gare à toi. » « Je n'en sais rien. J'ai dit ça ainsi. » « Tu mens. On ne dit pas ça ainsi. Où es-tu allé chercher cela ?» Je lui expliquai donc la découverte de la partition truquée, notre patiente recherche. Il se passa les mains sur le visage, lentement. Il semblait à la fois décontenancé et soulagé. « Et vous avez pu comprendre cela, à vous deux ?»« Oui. À qui allez-vous parler ?»« À personne, je te le jure. Le nom nous a bien fait trop peur. »« Là, tu ne crois pas si bien dire. » Il soupira, réfléchit un instant. « Bon, je n'ai pas le choix, je te dois une explication. Deux explications même. D'abord, tes parents, j'espérais ne pas avoir à te le dire, mais ils sont morts, tous les deux, de maladie et la même année. » Les larmes me vinrent aux yeux d'un coup, plus sans doute par réaction naturelle de mon corps à tant de remuements que par la nouvelle même que certainement je pressentais. « Tu le savais déjà à ton dernier voyage. » « C'est vrai. » Et je n'ai pas eu le courage de t'en parler alors. J'ai craint que tu ne veuilles retourner à Namur. J'étais sûr que ta place était ici, à Madrid, et non là-bas. Je le crois toujours, tant pour ton bien que pour le service du roi. Mais mes frères et sœurs, que sont-ils devenus? Que je sache, un parent s'en occupe, et ils vivent toujours dans votre maison, près de Notre-Dame. Je l'avoue, je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je voulais être fort et ravaler mes larmes. D'abord mes parents, disais-tu. Ensuite, sans doute, ce Pérez. « Tu veux en parler maintenant ? C'est pour cela que tu m'as amené ici. Hein ? C'est plus important pour toi, non ? C'est surtout plus compliqué. Cette affaire fait suite à beaucoup d'autres. Je crois que tu es assez vieux pour que je puisse te faire des confidences, même si elles sont dangereuses, pour toi comme pour moi. Je crois surtout que tu es sensible à certaines choses et que tu partageras mon opinion. Qu'en sais-tu ? Tu en as parlé avec le frère Hieronimo, avec moi aussi d'ailleurs. » Bien, venons-en à Pérez. Tu sais qu'Antonio Pérez était le secrétaire de Philippe II. Il est tombé en disgrâce et on l'a accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis, meurtre qu'au contraire le roi lui-même avait ordonné. On l'a ensuite persécuté et cruellement torturé pour le faire avouer. C'était là raison d'État et l'on sait comment elle se règle dans ce pays. Mais voilà, Pérez s'est échappé de sa prison. Et déguisé en femme, l'affaire est connue, avec les vêtements qu'en effet sa femme lui avait laissés lors d'une visite. Il a pu se réfugier en Aragon, où le roi n'avait pas pouvoir de juger. Il ne fouillait pas la justice, au contraire, il la réclamait. Mais Philippe avait confié l'affaire à l'Inquisition, qui est puissante partout, et a semé là-bas la terreur. L'Aragon s'est justement rebellé, car le roi se parjurait en dépassant ses pouvoirs. Tu sais qu'on a frôlé la guerre civile. Le grand justicier de ce royaume a été exécuté, et le Saint-Office a fait à Saragosse un grand auto da fé où les rebelles ont été brûlés vifs. Mais Pérez s'y a échappé. Il court toujours, malgré les assassins qu'il poursuivent. Et c'est de ce péril que tu as voulu l'avertir. Oh, il sait qu'on le poursuit, mais j'ai appris le projet plus précis qu'on avait de lui envoyer là-bas une femme pour le séduire et l'assassiner. C'est un homme seul, traqué, et le besoin d'un peu d'affection aurait pu l'aveugler. Nous communiquons par le moyen que vous avez découvert. Je le croyais plus sûr qu'il n'est, et cela me tourmente. « Si j'ai trouvé le psaume, c'est sans doute que ton voyage rendait le message inutile et que tu as vu Pérez. »« En effet. Pérez est-il musicien pour comprendre de tels messages ?»« Il ne l'est pas, aussi bien ne lui était-il pas adressé. Ses correspondances voyagent entre couvents de franciscains. On peut se méfier des frères mineurs, fouiller leurs bagages, mais quoi de plus innocent que de chanter la gloire de Dieu par de belles musiques ? Nul n'y verra jamais que du feu, du moins je le croyais. » Je n'étais guère surpris de voir les frères mineurs mêlés ainsi à ces manigances, proches tout compte fait de la conspiration. Combien de fois n'avais-je pas parlé de ces choses avec Hieronimo et ressenti toute la réserve à l'égard d'un pouvoir qui broyait impitoyablement au nom de la religion toute différence ou possible contradiction. Les juifs et les morts en avaient fait les frais, mais aussi aux Pays-Bas et bien cruellement jusqu'aux franciscains eux-mêmes et jusqu'au propre fils du roi, le prince Don Carlo. Je sers le roi en tout, je travaille à sa gloire et à celle de Dieu, grâce à l'autorité que je dois à l'un et au talent que l'autre m'a donné. Mais je suis aussi prêtre et simplement homme, et je ne serai jamais complice des crimes abominables que l'on commet sous couvert de religion. Voilà, tu en sais assez pour me faire envoyer au bûcher, mais tu seras avec moi, n'est-ce pas ? En une heure, j'étais devenu un homme. Les grandes choses dont nous avait parlé Philippe à son départ n'étaient autres que l'installation à l'emploi de chantre de 5 compères qui avaient choisi de rester en Espagne au terme de leur temps de petits chanteurs. Géry Guersem, Nicolas Dupont, Philippe Dubois, Mathieu Romarin et Jean Dufond étaient donc jugés assez savants, escios musicales, grammaire et latin, pour être employés à ce titre par Sa Majesté. Si ce n'était pas chose inattendue, ce fut par contre l'occasion d'un cérémonial dont la grandeur nous surprit, d'autant que nous en étions pour une fois l'objet. C'est que les Espagnols s'y entendent en solennité. Tout ce que nous connaissons chez nous, les plus belles et saintes processions, ne sont que crottes de bique au regard de ce qui se pratique à Madrid, Valladolid et Valence. La fête Dieu et la semaine sainte en sont les dates obligées, mais il ne se passe guère de mois sans que le transfert d'une relique ou la canonisation d'un nouveau saint n'en fournisse une nouvelle occasion. On en avait encore eu une belle illustration quand, quelques mois auparavant, le prince Farnèse avait envoyé au roi les plus belles reliques dont on pouvait rêver, la jambe gauche de Saint-Philippe et la tête de Saint-Laurent, à qui il vouait ce culte particulier qui lui avait fait dédier l'Escorial. Le valeureux capitaine espérait ainsi sans doute se concilier les bonnes grâces du souverain que l'on disait prendre ombrage de ses succès guerriers. Il n'en mourut pas moins à l'hiver, et on lui trouva, dit-on, les entrailles dorées d'un excès des eaux qu'il aurait prises à Spa. Je ne sache pas que l'on transmua la tripe en lingots à boire de l'eau, fût-elle de Spa, et l'on prétendit qu'on l'avait un peu poussé ad patres. Quand il y a ainsi matière à grande procession, la fête dure plusieurs jours. Les autorités publiques défilent en premier, suivies d'une forêt de torches, de croix et d'étendards. En certaines occasions, les gens de qualité font pénitence et vont de par la ville en se fouettant à l'envi, redoublant de vigueur quand ils passent devant les maisons de leur maîtresse et arrosant l'huile de leur sang. Il faut être en ce pays pour voir cela et ne pas en rire. Imaginez un instant notre bon mailleur se dénudant et s'allant flageller la bedaine en passant rue Piconnette au jour de la fête Dieu. Si tout est tout transe, là-bas, tout est mensonge aussi. Ainsi, entre le dimanche des rameaux et la fête de Pâques, les cloches ne peuvent sonner et les plus grands seigneurs doivent aller à pied, sans suite, en signe de douleur et d'humilité. Il est connu cependant que l'on met ce temps à profit pour fixer la nuit des rendez-vous galants dans les églises laissées ouvertes et plus d'un soi-disant dévot y fut surpris par les soldats à jouer au jeu de la bête à deux dos. Ceci pour dire qu'en tout cas, on ne peut dénier au sujet du roi Philippe le sens de la cérémonie. Notre promotion à l'état de chantre s'en trouva dignement solennisée, événement sans doute bénin, mais qui, à mon humble avis, valait bien en importance la translation de chapelle en couvent du troisième fémur de quelque obscur bienheureux. Vêtus de neuf, nous marchâmes dignement alentour du palais, jusqu'au cœur de l'église, au son des psaumes, que pour une fois nous ne chantions pas, mais qu'on chantait pour nous. Nous nous inclinâmes devant l'infante Isabelle et le prince Philippe, qui, honneur considérable, nous rendirent notre salut. En me redressant, je reçus sur la tête un petit bouquet de fleurs. Stupéfait, je compris bien vite que ce présent incongru ne m'était pas destiné, c'était Magdalena Ruiz qui l'adressait à mon voisin, son bien-aimé Nicolas, dont je labourais les côtes d'un coup de coude complice, lâchant sotto voce je ne sais quelle rosserie. Chacun feignit d'ignorer cet incident qui n'échappa pourtant à personne, pas même sans doute au roi, sûrement caché comme à son habitude derrière le rideau de sa chapelle privée. Quelle belle messe ce fut! L'un des deux copistes de la chapelle, Isaac Bertou, nous avait calligraphié de belles musiques marquées de notre nom et de la date du jour, le mercredi 1er décembre 1593. Ai-je déjà évoqué ce Bertou, flamand aussi, mais des provinces du Nord? Ne composant pas de musique, il avait voué sa vie à copier celle des autres. Il en faisait un art, enjolivant les notes, embellissant les portées, s'acharnant cela à surpasser son collègue en cette fonction, Gaspard de Arratia. Bertou avait en grande aversion les musiques imprimées, dont les livres étaient chaque année plus nombreux, d'autant que la grâce dont jouissait notre maître de chapelle lui valait de voir ses œuvres éditées en grand nombre. Ces recueils sont cependant peu pratiques à la chapelle, où chacun doit pouvoir lire et porter sa partie. « Regardez, disait-il, quand moi je ne coûte rien, on est allé payer plus de 3000 maravédis à ces méchants napolitains pour ces 6 livres imprimés, de notre maître Philippe, à peine large comme la main, épais comme mon petit doigt et relié de mauvais parchemin. Je vous défie bien tous d'en user à la grand-messe, sans bien vite vous abîmer la vue. » Il pouvait copier en une nuit les pièces qu'il aurait fallu des mois ou des années pour faire imprimer en Flandre ou en Italie. Il remettait ainsi, à la leçon de chant du matin, les partitions qu'on lui avait données la veille, d'un air faussement désinvolte, comme si la chose allait de soi, et ne lui avait demandé nul effort, ce que démentaient ses yeux rouges. On lui pardonnait ainsi les petites fantaisies qu'il se permettait sur ses copies, en accommodant à sa sauce certains accords au contrepoint. « Oui, c'est possible, j'aurais mal lu », s'excusait-il quand on le remarquait, ce qui ne pouvait manquer. « Ou alors, cela me semblait mieux sonner en faisant venir la quinte au supérius. N'y avait-il pas quelque erreur dans le manuscrit ?» Nous le soupçonnons de vouloir, par ses subtilités, dépasser son état de copiste et laisser trace plus tangible et plus noble de son modeste talent. Parfois, à quelque office solennel, nous le récompensions de ses veilles, lui faisant le plaisir d'oublier la correction pour chanter ce que lui, Berthoud, avait écrit. Philippe sursautait au passage litigieux, mais il ne s'en fâchait jamais. Cet office solennel de l'Alcazar, où nous fûmes fait chantre, je m'en souviens comme si c'était hier. Après tant d'années, il me revient encore, à la note près, les airs de ces modulations sacrées que le vulgaire nomme motets, que notre maître avait composées pour mettre nos voix en valeur. Nous chantions ainsi, tour à tour, tantôt seuls, tantôt par deux ou trois, de longs motifs en plein chant, auxquels répondaient les cornets ou le chœur entier. Ah, que nous étions fiers alors de notre art, fiers de notre jeunesse, fiers d'être enfin admis au nombre des musiciens de métier. Nous étions donc ainsi chantres à la chapelle de Sa Majesté catholique aux appointements de 12 plaquettes par jour. À nous qui n'avions rien, cela semblait une fortune. C'est que 12 plaquettes font 120 maravédis, ce qui donne par mois une centaine de réaux d'argent ou 9 écus d'or. Nous savions qu'avec une telle somme, nos nouveaux collègues avaient bien peine à vivre. Nous savions surtout que, pour cause de perpétuelle ruine du trésor, ces belles pièces seraient loin de tomber avec ponctualité en notre escarcelle. Mais qu'importe le vin, pourvu qu'on ait l'ivresse. Pour le reste, notre nouvel état ne devait apporter que peu de changements à notre quotidien. Nous pouvions certes disposer plus librement de notre temps, sans être soumis à l'autorité du maître de chapelle, mais au fil des ans, on nous avait déjà laissé au cou une bride plus large et la nouveauté serait mince. D'ailleurs, l'autorité de Rogier tenait davantage à l'estime et l'amitié que nous lui portions qu'à une quelconque contrainte. Somme toute, nous voir libérés à jamais des leçons de grammaire et de latin serait encore l'avantage le plus tangible de cette promotion. La messe fut suivie d'un plantureux banquet, dû aux largesses de notre maître, tout fier, somme toute, de voir consacrer la première génération des musiciens dont il ait eu entièrement la charge dès leur arrivée par-deçà. Il faut dire qu'il venait de recevoir une nouvelle pension sur les revenus de l'archevêché de Léon et ne manquait pas de moyens. La richesse de ce repas de fête est d'autant remarquable que l'Espagnol est ordinairement d'une grande sobriété en matière de nourriture. Il semble n'avoir aucun plaisir à manger, ce qui semblera inouï aux gens de chez nous, ou pour autant que j'ai pu en juger, à ceux des provinces de France, où pense bien pleine est la moitié du bonheur. L'Espagnol ne fait qu'un repas par jour, se contentant généralement de quelques fèves, d'un fromage, d'oignons et d'olives, avec quelquefois un morceau de chevreau ou de mouton. Et au vin, un demi-sautier lui suffit pour la journée. Maigre régime donc que celui de notre jeunesse. Il est vrai que la chair ne nous manqua jamais, ce qui n'eût sans doute pas été vrai en d'autres lieux. Mais peste de la frugalité le jour où l'on est fait chantre. Il y avait au menu force viande, fortement relevée en piment, en ail et en safran, comme on l'aime en ce pays. Ah, ce blanc-manger, hachis de volaille mijotée dans le lait et le sucre. Et cette olla podrida, délectable pot-au-feu. Mais les mets les plus exquis ne sont rien en ce pays, à côté des desserts, pâtes de fruits ou gâteaux à l'amande. Le vin coula à flot de ce vin fort où est passé tout le soleil d'Espagne et dont on oublie, pour peu qu'on en ait l'habitude, qu'il a pris le goût de la résine des outres en peau de porc où on le conserve. Et comme on était entre chanteurs, on chanta. Oh, non point de ces psaumes et antiennes qui faisaient notre ordinaire, mais de bonnes chansons joyeuses et paillardes. On a peine à le croire, mais tous ces grands musiciens, et jusqu'à Philippe lui-même, ont gardé le goût de ce genre délicieux de la chanson française. Prêtres ou chanoines, qu'importe, ils ont mis en musique ces couplets qu'on aime tant chez nous et qu'on chante avec autant d'ardeur chez l'anglais qu'en Bavière. Cela tient sans doute à ce que la langue française, comme l'italienne, est naturellement chante et propre à l'harmonie. Il est un curieux phénomène que j'ai souvent expérimenté. Chanter dessèche le gosier et invite à boire, tandis que boire donne grand entrain à chanter. L'effet de cette mécanique est puissant, et nous l'avons ce soir-là grandement ressenti, mettant à mal autant de cruches que de chansons. Le bon vin nous a rendus gais, chantons, oublions nos peines, chantons, à ce flacon faisons la guerre, et en mangeant de gras jambon, amis trinquons gaiement, chantons. Et Philippe Roger, aussi fort égayé, se mit en devoir de nous apprendre de vieux airs de ménestrel de chez nous, dont la chapelle de notre enfance nous avait heureusement laissé ignorants, comme les trois chanoines de Cologne ou le dit des trois dames de Paris, qui n'étaient aucune modèle de vertu. La nuit venant, et avec quelle ivresse, il nous prit l'envie d'aller promener de par la ville, d'étrenner en quelque sorte notre liberté neuve. Nous partîmes avec l'idée d'aller au Prado, pourtant peu connu en cette froide saison, et de rendre honneur au cabaret que nous pourrions trouver sur le chemin. Restez bien ensemble, recommanda-t-on, si vous ne voulez pas vous faire trancher la gorge. Et nous voilà partis, bras dessus, bras dessous, escouade joyeuse d'une dizaine de camarades, jeunes et anciens, tant décidé qu'aucun picaro, certes, n'aurait eu l'audace de nous dévaliser. Mais en route, à force de chanter, d'autres idées nous venaient. Au joli bois, je rencontrai mamie, quand m'aperçut, elle fut réjouie, et me dit tout bas en souriant, « Baisez-moi tant, aimez-moi tant, je serai votre amie. » Et c'est ainsi que nos pas nous menèrent presque naturellement vers l'un de ces quartiers que l'on nomme Puterias, où les femmes font commerce de leur corps et qui comptent parmi les lieux les plus fréquentés de la ville. Ces endroits ne sont point ce qu'ils sont chez nous, honteux et malfamés, tel le quartier tapis près de la porte de Bordial où nul honnête citoyen ne songerait à s'aventurer à visage découvert sans que le rouge lui vienne au front. La chose est ici à la fois naturelle et organisée. Naturel, car nul n'a vergogne à fréquenter les femmes de petite vertu, et c'est souvent à leur quartier réservé qu'on rend sa première visite en entrant dans une ville. Organisé, car Sa Majesté en a réglementé l'activité avec l'attention et la précision que l'on doit aux intérêts supérieurs de l'État. Les lieux où l'on va voir ces femmes ne sont nullement des taudis sales et louches, mais au contraire de riantes petites maisons entourées d'un jardin appartenant à la municipalité ou à des notables qui choisissent pour les tenir un père ou une mère, sorte de gérant dûment patenté par l'autorité. J'allais devenir un visiteur passablement régulier de ces maisons, aussi nommées mansibias. Je puis le dire maintenant sans honte, car l'âge m'a ôté le besoin d'y retourner, et tout ce temps passé m'en fait plutôt sourire. D'ailleurs, j'ai vu tant d'offenses à la vertu que mon péché, quelque répété qu'il fût, m'en semble bien véniel. Je connus en ces lieux de braves filles, souvent meilleures que bien des créatures, qui ne portaient point le court manteau rouge que l'on imposait aux prostituées pour les en distinguer, et nombre de femmes passant pour pieuses et d'honnêtes conditions n'auraient pas plus mérité qu'elles de se faire accompagner d'un page ou de s'agenouiller à l'église sur un coussin, chose rigoureusement interdite aux pécheresses de métier. Les vapeurs du vin et l'entraînement de la compagnie me rendaient passablement naturelle une démarche que seul je n'eusse jamais osée, et aux animations de « Allez les puceaux à la casserole », je prenais l'air blasé du vieux soir qui a sabré de la sorte dans tous les pays et pour qui la chose est aussi naturelle que nouer ses chausses au matin. Nos collègues étaient manifestement bien connus dans l'établissement où on leur faisait de grandes démonstrations d'amitié comme il convient à des gens appartenant à Sa Majesté. On était sans doute d'autant plus sincère que la clientèle nouvelle qu'ils amenaient promettait aux affaires une prospérité redoublée. On ne négocia guère les tarifs deux fois plus élevés selon que la chose se faisait dans le lit ou au contraire sur celui-ci, distinguo dont le fondement m'a toujours échappé, mais que je suppose lié à la lessive de la couche et au temps qu'on y passe. Toujours est-il que sur et non dedans, ces dames se contentent d'un demi-réal, prix somme toute raisonnable pour un chantre qui en gagne trois par jour. Malgré mes airs de matamor, je n'emmenais pas quand mon tour arriva et que vint me chercher la fille que de délicats connaisseurs de la nature humaine avaient dévolue à mon initiation, m'en disant grand bien. Petite et potelée, elle était plus jeune que moi sans doute, fraîche encore. Je ne sais si c'est conscience professionnelle ou attention à ma triple qualité de novice, de nouvelles pratiques ou d'étranger, elle me fit voir par le détail ce mystère qui m'avait tant intrigué, puis s'y prit avec grande douceur, me parlant doucement d'un patois dont je ne comprimis. Et, en dépit des langueurs de l'ivresse, la chose fut vite faite, trop vite. Soucieux cependant de m'en donner jusqu'à mon dernier maravédis, elle m'entretint gentiment de son état. Elle était de nature bavarde, comme je devais m'en rendre compte les quelques fois où je revins la voir, avant qu'un jour elle ne disparût sans laisser de traces. J'appris qu'elle se nommait Carla, qu'elle était chez son père depuis 2 ans déjà, et qu'elle s'y trouvait si bien qu'au dernier carême, elle prit ses jambes à son cou, quand, à toute force, on avait voulu lui faire embrasser le crucifix. Cette précision me laissa bien perplexe. Je ne savais pas que, pour la Semaine Sainte, les Ramera, la Cantonera et jusqu'à la Tuzona, les 3 degrés dans la hiérarchie de sa profession, étaient invités à faire pénitence et à changer de vie. Elles devaient toutes entendre un sermon sur la repentance de Marie-Madeleine, au terme duquel le prêtre leur présentait le crucifix en disant « Voyez le Seigneur, embrassez-le ». Si, dans un élan de piété, l'une s'y risquait, elle était sur le champ, emmenée dans le couvent des filles repenties. J'étais étendu sur cette couche, dont je voyais maintenant la crasse d'autant mieux que j'en avais remué la poussière, quand je sentis venir un accès d'étouffement. Cela ne m'effraya pas, même si la circonstance était malheureuse. Mon mal m'était en effet devenu familier, sorte d'animal de compagnie tapis en moi, resté un peu sauvage cependant, aux réactions imprévues, aux ruses inattendues. Je rassurai la fille qui ne fut tranquillisée que quand je quittai la chambre, sous les acclamations de ceux qui m'attendaient. La pauvre dut qu'elle avait hérité là d'un drôle de client. À cette époque, ma maladie n'était encore qu'une compagne discrète. J'ai le souvenir que quand la crise me prenait, je la laissais m'envahir sans résistance, entrer à toutes les profondeurs de mon corps. Je me fondais en elle jusqu'à ce qu'il n'y eût plus de souffle d'air assez léger pour s'insinuer encore dans ma poitrine. C'était comme un pacte. Elle pouvait me prendre sans combat, à condition de me laisser à temps revenir à la vie. Je laissais cette sorte de serpent me glacer la poitrine, c'est comme un tribut à payer. Oserais-je dire que je prenais une sorte de plaisir à me laisser ainsi déposséder de moi-même, à abandonner mon âme à ses flottements, à la laisser divaguer aux confins imprécis de mon enveloppe corporelle. Ce n'est que bien plus tard que la maladie allait commencer à me saisir, aussi parfois à l'improviste, comme par un élan qui parfois m'ôterait soudain toute vie. C'est peut-être en ces temps-là que la chapelle flamande toucha au pinacle. Sans forfanterie, elle devait valoir alors celles de Rome ou de Venise qui sont si fameuses. La musique, à mon goût en tout cas, y était aussi excellente que peut l'être œuvre humaine, et je n'imagine guère que les chœurs célestes pour produire plus douce et juste harmonie. Tous les pupitres étaient bien fournis, la troupe fraîche des garçons arrivés des Pays-Bas s'était vite faite à son nouveau métier, et les voix d'hommes étaient bien équilibrées, la nouvelle génération des chantres que nous formions y apportant une clarté nouvelle. Philippe Rogier, c'est une sorte d'état de grâce, il avait encore la pleine force de la jeunesse et pourtant on le reconnaissait pour le plus habile musicien de la cour. Quant aux honneurs dont il était comblé, il ne lui montait pas à la tête mais lui donnait une volonté, une inspiration nouvelle. Il nous vint quelques visiteurs d'importance, la chose n'était sans doute pas neuve, mais notre état de chantre nous permettait maintenant d'être associés à ces fêtes, voire d'être plantés pour l'occasion à quelques princes ou éminences. Certes, je n'eus jamais l'illusion qu'on entendait vraiment intéresser les grands de ce monde à nos personnes. Le roi nous exhibait plutôt avec une fierté de propriétaire, comme on montre un beau régiment ou un cheval de prix, avec cette nuance peut-être qu'il entretenait en même temps que nous sa réputation d'homme éclairé, à la fois pieux et ami des arts, ce à quoi ne concourent, jusqu'à plus ample informé, ni les Roussins ni les Argoulets. Cependant, l'artiste est toujours bizarrement considéré en ce monde, et le fait qu'il soit tonsuré n'y change rien. On l'applaudit, on le couvre d'or parfois, mais on le tient toujours à l'écart. Méprise-t-on avec quelque gêne celui qu'on s'était allé admirer l'instant précédent? Le craint-on même un peu, lui qui accède à un monde de beauté fermé au commun? À vrai dire, ces nobles visiteurs pouvaient montrer plus d'intérêt véritable et de considération pour nous que nos maîtres eux-mêmes qui ne nous en avaient jamais témoigné. Nous eûmes ainsi la visite de Mgr Camillo Borghese, qui visitait l'Espagne entière, sorte d'ambassadeur extraordinaire du Saint-Siège. Les missions de Sa Majesté Clément VIII se succédaient pour à Madrid, car le pape voulait rattraper la France et l'Espagne avant d'absoudre définitivement le roi Henri. On fit à ce seigneur une fête somptueuse. Chacun sait que Borghese est devenu depuis pape lui-même sous le nom de Paul V et a laissé une réputation de grand protecteur des artistes que je crois mériter au souvenir de l'intérêt qu'il porta à la chapelle. Je le vois encore s'entretenir longuement avec Roger, à qui il avait demandé que le roi le présentât. Philippe II, décrépit, pâle comme un cadavre, souffrait manifestement de demeurer debout si longtemps. Il devait montrer au grand jour la triste mine qu'il nous cachait ses offices, car il les suivait d'ordinaire sous la loge du chœur, assis avec l'infante derrière un mince rideau. Le prélat n'en avait cure dans la splendeur rebondie d'une quarantaine volubile et satisfaite. Je considérais pensivement ces trois hommes, le roi, l'évêque et le musicien. Ils formaient un groupe curieux. Le premier faisait bonne figure à l'envoyé du pape, alors qu'il avait à lui seul au cours de sa vie donné au successeur de Pierre davantage de fil à retordre que tous les païens l'avaient fait en 5 siècles. Borghese, qui feignait de prêcher la guerre contre les Turcs, alors qu'il se souciait moins de les voir prendre Vienne que de se concilier à un roi ennemi qui voici peu s'affichait huguenot. Rogier, enfin, qui pouvait passer pour un serviteur modèle quand il n'était pas loin de conspirer. Chacun savait que l'autre n'ignorait rien de ses pensées, sauf peut-être Roger, qui sans doute se trompait. L'évêque prit notre maître par le bras sur le ton de la confidence, puis planta là Philippe II pour s'approcher des chanteurs, comme s'il voulait en acheter un bataillon pour ses offices romains. Il sembla commenter avec enthousiasme la messe chantée qu'il venait d'entendre, s'en faisait montrer les musiques. Il dessinait des bras de grands gestes, désignant la voûte comme pour figurer le mouvement du son qui s'y heurtait. Nous vîmes rapidement aux nouvelles. Alors, qu'a-t-il pensé de la cérémonie, ce Monsignore ? Vous avez impressionné, il vous trouve des voix exquises. Mais je ne devrais pas vous le dire, vous allez le croire et en faire les pharaons. Tais-toi, tu ne connais pas ta chance de nous avoir. Et il s'y connaît avec la Sixtine et tous les chœurs qu'ils ont à Rome. Qu'avait-il à s'agiter en montrant ainsi le plafond? J'ai cru qu'il allait s'envoler. Il se plaignait de la sonorité de la chapelle, qui est trop petite pour le chœur, et qui rend, m'a-t-on dit, la musica troppo strepitosa. Strepitosa, qu'est-ce à dire? Mais strepitare, c'est, disons, brailler, pour rester poli. Brailler? La peste, toi, du Monsignore! Non, détrompez-vous, il est enchanté du chœur. Il lui trouve d'ailleurs un caractère flamand, plus proche de ce qu'il a entendu aux Pays-Bas que de ce qu'il découvre d'ordinaire en ce pays. Il est donc allé jusque-là? Il m'a même dit qu'il avait été reçu à Namur voici 2 ans. C'est vrai, je m'en souviens, intervint Charles Fronville, qui était, comme j'ai dit, le dernier venu de mes pays à Namur. Le vieux président de Manui l'a reçu en grande conférence, et nous avons dû lui chanter un office solennel à Saint-Aubin. Mon seigneur m'a aussi appris la mort du plus grand musicien de ce temps, Pier Luigi da Palestrina. Nous chanterons dimanche une de ses messes à sa mémoire. Nous connaissions évidemment ce musicien dont les belles œuvres imprimées nous arrivaient par caisse entière. Je ne sais s'il rédigea les mémoires de sa vie qui mériteraient certes plus d'attention que mes modestes souvenirs, tant elle fut agitée et chargée de grands bonheurs et de malheurs plus grands encore. Petit chanteur comme moi, il fut nommé par Jules III à sa chapelle et en fut ensuite exclu par Paul IV pour le double crime de s'être marié et d'avoir osé composer des madrigaux. Toute sa famille ou presque mourut de la peste et il s'apprêtait à entrer dans les ordres quand il rencontra une riche veuve dont il accrut la fortune par le commerce des pots. Devenu vieux, il voulait se retirer et vivre paisiblement ses dernières années en sa ville natale, mais le sort en a décidé autrement car il est mort brusquement, à peine arrivé, le jour de la Chandeleur. Somme toute, son destin ne fut point tant différent du mien, toute proportion gardée, et si je ne rencontrais point de riche veuve, j'eus le bonheur de revenir vivre plus longtemps que lui en ma ville natale. On enterra Palestrina dans la Capella Nuova, mais ironie du sort, sa dépouille disparut quand ce même Borghese, devenu Paul V, la fit démolir pour agrandir la basilique Saint-Pierre. Cette année 1595 fut décidément fatale à la musique, puisqu'on apprit peu après la mort de Roland de Lassus, encore un musicien de chez nous, jadis petit chanteur à Saint-Nicolas à Mons, qui passa tout le cours de sa vie à la cour de Bavière. S'il eût vécu une génération plus tard, c'est certainement en Espagne que son talent l'eût mené. Si. À l'été de 1595 eut lieu la consécration de la basilique de l'Escorial qui devait solennellement marquer l'achèvement du plus beau palais jamais construit en ce pays. Pourquoi cette année-là précisément, alors que la dernière pierre de l'édifice avait été posée 11 ans plus tôt et que le chantier, qui durait depuis plus de 30 ans, se prolongeait longtemps encore? N'y avait-on pas déjà tout vu depuis la communion solennelle de 4 samouraïs japonais à l'autel catholique jusqu'au baptême d'un prince marocain et d'un grand rabbin portugais? Peut-être Philippe II voulait-il raviver une dernière fois le souvenir de temps plus doux que les jours présents où il sentait monter la mort en lui et la haine alentour. Mais ce vieillard amer et aigrotant était-il vraiment le même roi qui, jadis, y faisait montrer à ses enfants l'énorme mâchoire d'une baleine échouée sur la laguine de l'Albufera, ou introduisant pour rire un éléphant savant dans la cellule du prieur? Comment reconnaître en lui le jeune souverain qui éclatait de rire quand un enfant traitait de « fils de pute » l'évêque de Ségorbe qu'il avait souffleté un peu violemment au sacrement de confirmation? Ou encore celui qui jadis se mêlait aux pompiers pour sauver une tour transformée par la foudre en brasier pour faire avec ripaille au matin l'ouvrage achevé. Chaque province avait fourni pour l'Escorial ses matériaux les plus nobles, marbre noir de Grenade, térébinthe de Tolède, bronze d'Aragon. On y trouvait surtout plus de reliques que ne pouvaient revendiquer d'ossements tous les saints du calendrier. Le roi Philippe s'estimait-il si grand pécheur qu'il fit ainsi entourer de tant de protection la sépulture qu'il s'était réservée dans le caveau où dormaient déjà 26 rois et reines parmi ses nos parents? Il n'existe chez nous aucun monument qui soit comparable à ce palais. Il compte 40 lieues de couloir, ce qui sans doute fait davantage de pavés qu'on en pourrait dénombrer aux rues de toutes les villes des Pays-Bas. 2663 fenêtres éclairent, dit-on, autant de peintures et tapisseries flamandes, de brocarts florentins, d'étoffes de Grenade. C'est le nonce pontifical en personne, Camillo Cayetano, qui consacra la basilique le jeudi 30 août. La nuit précédente, on avait illuminé le palais de myriades de lampions posés jusque sur la croix surmontant la coupole et que l'on confondait avec les étoiles illuminant le ciel d'été. C'était là merveilleux spectacle et ce fut miracle que nul incendie n'en résulta car chacun était aussi chargé de vin que les lampes étaient d'huile. Ce fut jour de grande liesse et le roi lui-même pleura de contentement à la vue de ce spectacle qu'il ne se lassait d'admirer. Pour peu, il serait descendu de la litière où le clouait la goutte et qu'on promenait aux 4 coins du domaine. Sans doute, ce chantier de l'Escorial avait-il été la grande affaire de sa vie, sa seule joie, l'occasion des plus belles fêtes d'un règne qui avait été plus fertile en pleurs qu'en riz. Il avait ainsi amené l'ouvrage à son terme, fût-ce au prix de la ruine du royaume, et pouvait mourir tranquille.